Bonsoir, chers amis, très heureuse de vous retrouver. Je vous ai invité à lire et à relire les textes de la parole du Seigneur parce que par la lecture de ces textes, par l'écoute de cette parole, nous avons découvert la profondeur de textes qui paraissaient enfantins, hein, surtout je pense évidemment aux textes de la Genèse dont je vous ai parlé si souvent, qui paraissent des histoires pour enfants, et j'espère vous avoir fait avoir pu évoquer avec vous à quel point ces textes étaient profonds. Nous avons ces textes nous ont permis de comprendre que la parole eh bien elle est vivante de toujours à toujours, c'est-à-dire que la parole elle n'est jamais obsolète, hein, elle est toujours vivante, et bien sûr qu'elle est toujours vivante puisqu'elle est chemin, vérité et vie dans la personne même du Seigneur Jésus. Donc lorsqu'il dit « je suis le chemin, la vérité, la vie », c'est sa personne qui est verbe de Dieu fait chair, qui est parole de Dieu fait chair. Voilà, donc cette parole, il ne faut jamais la prendre comme quelque chose de dépassé, et il faut toujours l'aborder avec humilité en s'ouvrant à l'inspiration de l'Esprit pour comprendre ce que nous dit cette parole. Voilà, donc pendant tout ce temps que j'ai passé, que nous avons passé ensemble, eh bien j'ai essayé de vous faire percevoir à quel point le sacrement de mariage était beau et grand. J'ai essayé de déployer avec vous cette beauté du sacrement de mariage, qui est ce mariage qui est un engagement particulier, qui est un engagement unique et qui est de source divine. Hein, cette origine divine, elle est attestée, nous l'avons vu, elle est dans les textes, et cette origine, elle est attestée par le Christ lui-même. Je vous ai souvent évoqué le passage de Matthieu, chapitre 9, lorsque on lui pose une question piège sur le mariage et le divorce, et le Christ ne répond pas directement « permis, pas permis », et c'est là où l'on voit la pédagogie divine. Il renvoie l'homme à son origine, qui est d'être créature de Dieu, créée par amour. Hein, donc le Christ nous rappelle cette origine, et l'Église reconnaît cette origine divine, et elle reconnaît cette origine à tel point, et tellement qu'elle affirme dans ce que l'on appelle le droit canon, qui est le droit de l'Église, eh bien elle affirme que nulle puissance humaine n'a de prise sur le sacrement de mariage. Le mariage ne peut être délié par aucune puissance humaine. C'est quelque chose qui ne relève pas. Les autres sacrements peuvent être à la portée de l'autorité de l'Église, mais le sacrement de mariage ne peut pas, c'est un lien qui ne peut pas être délié par l'Église. L'Église ne peut faire que reconnaître que il n'y a pas eu de sacrement de mariage, que les conditions n'ont pas été reconnues, donc l'Église reconnaît la nullité, mais il ne dit jamais qu'un mariage qui a été valide peut devenir invalide. Une fois qu'il est scellé, définitivement jusqu'à la mort. Et donc ce sacrement, c'est un sacrement que l'Église n'a pas institué, c'est un sacrement qui fait partie de l'élan créateur de Dieu lui-même. C'est un élan, ce sacrement manifeste cet élan créateur de Dieu, et cet élan créateur, il est ensuite confirmé par le Christ, qui en fait le signe. Et il faut comprendre, comprendre que le signe, c'est la manifestation, hein, la signification du signe, c'est manifestation. Le Christ en fait le signe, le témoin du plan divin sur sa création. Lorsque Jésus nous dit « à l'origine, il n'en était pas ainsi », lorsque Dieu créa le ciel et la terre, il créa l'homme et la femme à son image, et lorsque le Christ affirme cela, il affirme que le lien dans le mariage et fait partie de la grande bénédiction divine qui fait que le monde est tiré du néant. Et nous avons vu aussi comment est-ce que saint Paul médite sur la relation qui existe entre le Christ et l'Église en méditant cette relation à la lumière de la relation entre l'homme et la femme dans le mariage, sachant que ce à quoi il réfléchit, c'est le sacrement, la puissance pneumatique, ce qu'on appelle la puissance pneumatique, la puissance de l'esprit. Et il nous dit, il nous affirme qu'il y a un lien extrêmement fort entre le mystère de l'union du Christ et de l'Église et, d'une certaine façon, le mystère du sacrement de mariage comme le mystère, comme il est un mystère des autres sacrements, sachant que pour nous, chrétiens, lorsque l'on parle de mystère, on ne parle pas de quelque chose que l'on ne peut pas connaître. On dit que c'est un mystère parce que l'intelligence humaine n'a jamais fini de le comprendre. Mais nous pouvons entrer dans ce mystère, et il est mystère parce que plus nous entrons dans cette réflexion sur la puissance et l'action de Dieu, plus nous nous rendons compte de l'infini de ce que cela manifeste. Voilà. Donc, nous avons évoqué tout cela, et systématiquement, ou à chaque fois que je vous ai parlé, j'ai bien sûr eu le sentiment que ce qui nous entoure dans la société est totalement contraire à ce que je vous dis, puisque nous assistons malheureusement à ce que l'on pourrait appeler une remise en cause radicale du mariage selon le plan de Dieu, et nous voyons comment les lois successives votées ont gravement blessé ce mariage et ses conséquences avec la loi de la bioéthique qui va blesser encore plus gravement ce mystère qui est l'appel à la vie d'un être humain. Voilà. Mais cela ne nous empêche pas, et au contraire, cela nous invite à entrer et à méditer toujours plus le sens du mariage. Plus il est attaqué ou méprisé ou moqué, plus il nous faut méditer et entrer dans la profondeur de ce sacrement. Et pourquoi est-ce que, indépendamment si l'Église s'oppose à toutes les lois, ce n'est pas par blocage ou par désir de faire souffrir, c'est tout simplement parce que l'Église a toujours considéré, en se fondant sur les textes de l'Écriture, que le mariage et donc la famille sont l'un des piliers de toute société. Et il est très frappant de voir qu'aujourd'hui, tout le monde se lamente sur le bouleversement de notre société, sur la violence, sur les enfants qui ne sont plus élevés, etc. Et en même temps, tout le monde dit que c'est formidable que les familles ne soient plus des familles traditionnelles, que chacun fait ce qu'il veut, comme il a envie, etc. Alors que non, nous voyons bien que lorsque la famille est attaquée, lorsque la famille est abîmée, eh bien nous voyons que c'est toute la société qui souffre. Pourquoi ? Parce que c'est dans la famille, donc c'est par le mariage et dans la famille, c'est au sein même de la famille que l'être humain grandit, qu'il s'épanouit comme un être de relation, que chacun dans la famille apprend à vivre dans l'écoute et dans l'accueil de l'autre. Les frères et sœurs apprennent à se regarder les uns les autres, à se respecter, d'une certaine façon à s'oublier. On apprend aux enfants à se servir en dernier. On apprend aux enfants à ne pas couper la parole, on apprend, il y a tout ce qui fait la beauté de la vie en société, eh bien ça prend au sein même de la famille grâce au mariage. Alors voilà, même si bien sûr il n'est pas question de juger les vies des uns et des autres, il ne peut non plus être question de cacher l'importance de ce sacrement du mariage, qui est un sacrement donné aux hommes pour leur sanctification et pour leur bonheur. Il ne faut pas l'oublier. Alors il y a, lorsque j'étais plus jeune, mais il me semble qu'il y a eu d'autres saisons, il y a une série qui passe à la télévision qui me semble ne présenter absolument aucun intérêt, mais dont le titre, je voudrais citer le titre avec vous, cette série qui s'appelle Les Mystères de l'amour. Et bien sûr, la série, bon, n'a pas grand intérêt, mais je trouve que ce titre est tout à fait évocateur, parce que, en effet, lorsque l'on parle du mariage, on parle d'une certaine façon des mystères de l'amour, mais pas au sens peut-être où la série l'entend, hein, mais on parle des mystères de l'amour, c'est-à-dire que l'amour entre un homme et une femme est un lieu particulier, et c'est un lieu où le plus beau de l'être humain s'exprime. Hein, l'amour est un mystère parce que l'on n'a jamais fini de découvrir les harmoniques de l'amour, on n'a jamais fini d'approfondir l'amour que l'on porte à quelqu'un, et cet amour humain permet à l'être humain d'exprimer ce qu'il a de plus profond, de plus fondamental, même si il arrive que l'amour, comme beaucoup d'ailleurs, de dimension de la sainteté, eh bien, il arrive que l'amour, parfois, a un imitateur qui le transforme en une spirale mortifère. Hein, l'amour, lorsqu'il est transformé en volonté de puissance ou en désir de jouissance, eh bien, il peut être singé et il peut devenir quelque chose de contraire à la vocation de l'homme. Si l'on réfléchit un petit peu aux caractéristiques de l'amour humain, on se rend compte que finalement, c'est le seul amour humain qui a besoin de toutes les dimensions de l'être humain pour s'épanouir en vérité. Alors, mon affirmation est peut-être un petit peu oser, mais ce n'est pas grave, je la maintiens quand même. Pourquoi? Parce que il me semble que dans le mariage, l'amour eh bien cet amour humain est la seule dimension de l'amour, c'est la seule dimension de notre capacité à aimer qui s'exprime par le don du cœur, mais aussi par de façon incontournable et totale par le don du corps. Aucun autre amour humain ne va si loin. Aucun autre amour humain ne va jusqu'à cette union des corps pour s'exprimer dans toutes ces harmoniques. Et ces harmoniques de l'amour, de cet amour qui unit un homme à une femme, eh bien, cet amour, il se manifeste par un élan de don et de renoncement qui devient presque instinctif, alors qu'il est difficile de le mettre en œuvre dans d'autres circonstances. Qu'est-ce que je veux dire lorsque je vous affirme cela? C'est que les grandes histoires d'amour que nous connaissons, les belles histoires d'amour que nous connaissons, eh bien, toutes témoignent de la même capacité de ceux qui s'aiment en vérité et profondément à se sacrifier pour l'autre, à perdre sa vie pour l'autre, à totalement unir son sort à celui de l'autre par le corps et par l'esprit. Et il est vrai que les belles œuvres sont celles qui parlent de l'amour, soit de l'amour heureux, mais surtout de l'amour malheureux, parce que c'est la souffrance, c'est une souffrance qui est universelle, terrible pour celui qui la vit. Et c'est une souffrance qui permet de vivre une expérience de déchirement et d'arrachement d'une façon toute particulière. Donc voilà, c'est ce sacrement est celui d'un amour qui se caractérise par le don et par le renoncement. Hein, lorsque nous nous marions, Lorsqu'un couple échange les consentements devant le prêtre, eh bien, la première phrase, j'ai « Je me donne à toi et je te reçois comme époux, je te promets de t'aimer toute ma vie dans le… » Voilà, etc., etc. Donc, il y a quelque chose de fondamental dans le mariage, c'est cette dimension du don. De ce don découle une fécondité. Puisque l'amour entre un homme et une femme a comme prolongement, on va dire, naturel, l'appel à la vie d'un autre être. Je veux dire par là que, il est bien évident que, l'union des corps n'est pas seulement destinée à la procréation, hein, la position de l'Église est très claire, l'union des corps est une manifestation de l'amour qui unit un homme et une femme, et il n'est pas uniquement réservé, uniquement dans le but d'avoir des enfants, pour le dire autrement. Mais il faut bien comprendre qu'affirme l'Église et qui est tout autant vrai, c'est que l'union physique dans le mariage a comme suite naturelle, qu'on le veuille ou non, la transmission de la vie humaine. C'est le but, l'Église dit, c'est la fin du mariage, c'est son but ultime, c'est bien l'appel à la vie d'un autre être. Le corps humain est ainsi fait que sa vocation la plus profonde, hein, la vocation du corps est de faire naître, d'appeler à la vie un autre être. Alors certains vont dire que c'est uniquement l'instinct de survie, que c'est l'instinct de reproduction. Eh bien, il n'empêche que l'on regarde les choses d'une façon simplement naturelle ou qu'on le regarde les choses d'une façon autre, que l'on parle d'instinct, que l'on parle d'instinct de reproduction, il n'empêche que tout le monde, que tous admettent que c'est le mouvement le plus fondamental de l'être humain. C'est celui qui est le plus profondément ancré dans la nature humaine. Le désir de transmettre la vie est quelque chose de fondamental, d'inscrit au plus profond du cœur de l'homme. Et donc, arriver un petit peu, tout ça, j'essaie un petit peu avec vous de revoir. Comme dans une petite synthèse, ce que nous avons évoqué au fur et à mesure de nos rencontres. Et il me semble qu'il est essentiel donc d'évoquer maintenant, une fois que j'ai un petit peu posé ces bases, d'évoquer avec vous quelle est l'action du sacrement de mariage sur la relation entre l'homme et la femme. Nous avons vu que l'amour humain est quelque chose de bon qui est voulu par Dieu. Nous avons vu, pas aujourd'hui, mais nous avons vu comment est-ce que cet amour humain avait été abîmé par le péché, hein. Nous avons vu que la relation de don et de communion, j'en ai parlé très souvent, avait été remplacée par une relation de désir et de convoitise, que cette relation existe toujours, mais qu'elle a été un petit peu, elle a été blessée comme tous les autres domaines de la relation, comme la relation avec les parents, la relation avec les enfants, la relation avec les autres. Toutes les sortes de relations ont été blessées par le péché. Et donc, les sacrements sont là pour restaurer l'homme dans sa vocation première, pour le libérer de ces chaînes dont il s'était lui-même enfermé. Et cette libération, eh bien, par le sacrement de mariage, elle va aussi s'exprimer, elle va aussi manifester son action sur l'amour même que se portent l'homme et la femme. Alors, pour réfléchir un petit peu à cette dimension, je vous propose d'évoquer des textes de l'Écriture pour voir comment est-ce que nous pouvons réfléchir sur le don de l'esprit dans le mariage et sur la façon dont cet esprit, par le sacrement, agit sur le mariage. Alors, je vous propose l'épisode des noces de Cana que vous trouvez à l'évangile de Jean, chapitre 2. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas venue ». Sa mère dit à ceux qui le servaient « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient « Remplissez d'eau les jarres » et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas ». Ils lui emportèrent et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient épuisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Ceux d'entre vous qui ont assisté à un mariage, même en tenant compte des différences culturelles, vont peut-être trouver qu'il y a des détails et des paroles étonnantes, mais bien évidemment, je n'aurai pas le temps d'en détail, puisqu'il nous reste un petit quart d'heure, je n'aurai pas le temps d'évoquer la richesse de ce texte. Je voudrais avec vous remarquer certaines choses. Déjà, vous voyez que dans les premiers versets, le premier verset, on nous dit « Il y eut un mariage à Cana de Galilée ». Le troisième jour, cela commence le troisième jour, vous avez tous évidemment pensé tout de suite au troisième jour, qui est ce troisième jour qui a une signification si particulière pour nous, hein, puisqu'il est ressuscité des morts le troisième jour. Il y a déjà, nous sommes déjà entrés dans, nous sommes avertis qu'il va se passer des événements qui sont d'une certaine façon comme une prophétie de ce qui arrivera au terme de la vie terrestre du Christ. Donc, il nous est dit que Marie est invitée à cette noce, ainsi que Jésus qui est là avec ses disciples. Hein, on nous dit, la mère de Jésus était là, voilà, elle était là, et ensuite on nous dit, Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. La mère de Marie, on a l'impression qu'elle est là de façon complètement évidente. La mère de Jésus, eh bien, il y a une noce, il y a un mariage, il y a un amour humain, eh bien, Marie est là. Elle est là. On ne dit pas qu'elle était invitée, elle est là. C'est comme si elle était présente depuis toujours. Elle est là. Et ensuite, on nous dit aussi que Jésus était là avec ses disciples. Jésus était là avec ses disciples. Les disciples, on pourrait imaginer que, ces disciples, l'Église, c'est la future Église, hein, les disciples qui sont les premiers apôtres, les premiers évêques, les premiers évangélisateurs. Voilà, donc nous avons à cette noce finalement, nous avons Marie, Jésus, les disciples, l'Église, le Christ, la mère du Christ, voilà, ces personnages sont affirmés comme étant là dès le début. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à la suite du texte que « Or, on manqua de vin ». Alors, Marie, on voit que Marie, qui est là, elle est active puisqu'elle est, elle voit qu'il n'y a plus de vin. Hein. Cela manifeste la proximité de la Vierge Marie, sa proximité, son engagement auprès des fiancés puisque elle est là. Elle semble suivre de près le déroulé de ce mariage. Et elle, on ne dit pas que c'est quelqu'un de la famille de Marie, mais on voit bien qu'elle est suffisamment intime pour être au courant de tous les détails matériels d'un mariage, tous les détails d'un mariage, tout ce qui fait le lien du mariage, rien de tout cela n'est étranger à Marie. Parce que Marie, elle est de la terre. Marie, c'est une fille, elle est de notre chair, Marie, elle est fille de la terre, et elle sait bien, et elle est femme, et donc elle sait bien ce dont chacun a besoin. Elle sait, elle a sa capacité à discerner ce qui manque, comme le ferait, comme le font plus facilement les femmes. Les femmes savent voir tout de suite ce qui ne va pas lorsqu'il y a une organisation. Marie voit tout de suite que l'on manque de vin. Apparemment, personne ne lui dit rien, mais elle le voit. Et elle s'adresse directement à son fils parce qu'elle le connaît. Elle tout de suite, elle dit à son fils, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Elle parle à son fils. Elle, d'une certaine façon, elle intercède auprès de son fils parce qu'elle le connaît. Marie, elle aime son fils, elle l'aime du plus profond de son cœur. Elle sait qui il est. Elle sait cet amour infini qui est la personne du Christ. Et donc Marie va le voir, va intercéder auprès de lui pour le mettre au courant. Lui dit, voilà, il n'y a plus de vin, il n'y a plus. Qu'est-ce que c'est que le vin? C'est ce qui réjouit le cœur de l'homme, ce qui rend heureux. Eh bien, Marie va voir son fils et lui dit, non plus de vin. Elle le met au courant de cet événement. Voilà qui est très étrange. On se dit, la Vierge Marie pourrait parler d'autre chose avec son fils que d'un manque de vin. On pourrait imaginer un récit, on aurait pu imaginer un récit où elle demande une guérison, elle demande quelque chose de particulièrement extraordinaire, mais non. Elle demande, ce qu'elle demande à son fils, eh bien c'est concret, c'est matériel, c'est inspiré par la réalité de la condition humaine. Marie sait ce qu'il faut pour qu'un mariage se déroule comme il faut qu'il y ait du vin. Et Marie sait que s'il n'y a plus de vin, eh bien le bon déroulement du mariage est remis en cause. Et voilà que, de façon très étonnante, Jésus, alors on a l'impression quand même que Marie se fait rabrouer un peu par son fils qui commence par lui exprimer un peu comme un étonnement, comme si Jésus ne pouvait pas encore être concerné par le problème. Dit, que me veux-tu? Que veux-tu que je fasse? Mon heure n'est pas venue. Vous, tout de suite, vous pensez bien, lorsqu'il dit mon heure n'est pas venue, c'est un renvoi à ce qu'il dira la veille de sa passion, hein. Mon heure est venue. L'heure de Jésus, c'est l'heure de la scène, c'est l'heure de la passion, c'est l'heure de la résurrection, mais surtout, c'est l'heure où par la mort et la résurrection, eh bien, il fait toute chose nouvelle. Et c'est cela qui est extrêmement important. Jésus dit, mon heure n'est pas venue. L'heure de Jésus, c'est celle où il fait toute chose nouvelle par sa mort et sa résurrection. Ainsi, voilà que ces détails qui semblent très étranges, hein. Marie qui voit qu'il n'y a plus de vin, alors qu'en général, il n'y a que ceux qui organisent le mariage, hein. Marie n'organise pas le mariage et pourtant c'est elle qui voit qu'il n'y a plus de vin. Elle va voir son fils qui commence par lui dire « mais je ne suis pas encore passée au Père, je n'ai pas encore envoyé l'Esprit ». Voilà, donc contrairement à la logique, on pourrait imaginer que l'histoire en reste là, que Jésus dise à Marie « écoute, mon heure n'est pas venue ». Bon, voilà, et que Marie ne dise rien, voilà, l'histoire pourrait s'arrêter là de façon logique, mais au contraire, Marie ne se laisse pas démonter. Elle se contente de dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Elle se contente de dire à ceux qui sont là pour agir, faites ce que vous dira Jésus. Accomplissez toutes les paroles, accomplissez tout ce qu'il vous dit. Et Marie s'arrête là. Elle ne sait peut-être pas ce que Jésus va demander, mais sa confiance est telle, sa confiance est immense, et elle se contente de dire au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et dans cet ordre, et bien sûr, concentrer toute la confiance et tout l'amour d'une mère pour son fils. Marie sait qu'il ne restera pas inactif parce qu'elle connaît son fils. Elle sait qu'il ne lui refuse rien, même si elle ne sait pas forcément ce qu'il fera et comment il le fera. Alors, nous passons sur des détails qui sont trop compliqués. Je passe sur la question de l'interprétation du nombre de jarres, le nombre de litres, etc., parce que je ne veux pas entrer là-dedans. Nous ne nous arrêterons pas sur ce point. Peut-être que si j'ai le temps, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je ne pense pas. Je préfère attirer votre attention sur le fait que que c'est de l'eau qu'est tiré le vin. Nous savons bien ce que représente l'eau. L'eau, c'est l'eau du baptême, c'est l'eau de la purification, c'est l'eau de la nouvelle naissance par le baptême. Et de cesser de cette eau, c'est cette eau même qui permet le vin, qui bien sûr représente le sacrifice du Christ, le vin nouveau, vin de la nouvelle alliance. Et c'est là que nous voyons réellement une prophétie du vin consacré le soir de la scène. Donc vous voyez qu'il y a un rapport dans ce texte qui est extrêmement, extrêmement étroit entre l'eau du baptême et le vin de l'Alliance. Hein, et bien évidemment, il nous faut penser au baptême comme ouverture et accès au sacrement lorsque nous devenons enfants de Dieu par le baptême. Donc vous voyez que dans notre texte, le vin est tiré, le vin est distribué à la noce, le maître de la noce, qui n'est pas le fiancé, se contente de dire au fiancé que contrairement à ce qui se passe normalement, c'est maintenant que le bon vin arrive, alors que dans l'opinion générale, on pense qu'après le bon vin, il n'y a qu'un vin tout à fait banal, tout à fait médiocre, qui est d'une certaine façon un peu un mensonge, puisque les gens sont ivres, ne voient plus très bien, ne savent plus très bien ce qu'ils boivent, un vin qui n'a plus de saveur, qui est comme un vin de routine, comme le vin que l'on boit sans s'en rendre compte. Et vous voyez, avec ce que je vous ai dit, je pense que vous voyez combien ce texte des noces de Cana, il peut être lu avec des lunettes particulières que nous chaussons avec joie, qui sont les lunettes qui nous permettent d'y déceler les traces de la bénédiction totalement renouvelée, cette bénédiction du mariage totalement renouvelée dans la nouvelle alliance. Nous sommes là, avec les noces de Cana, dans une prophétie et en même temps dans l'actualisation de ce que le mariage, l'union entre l'homme et la femme, qui dès le départ, Marie est présente dans cette union. Hein, l'union, Marie est présente là, elle est invitée, Jésus et l'Église sont là, et par l'intercession de Marie, vous voyez que Jésus, l'Église, les disciples, les serviteurs, eh bien nous avons là quelque chose qui nous évoque ce sacrement, cet Esprit Saint, car le sacrement de mariage n'est pas un simple lien qui enchaîne deux personnes, mais ce sacrement est une puissance d'amour qui transforme, qui transfigure l'amour humain. Et cet amour humain, voulu par Dieu, qui était déjà, qui portait en lui ce germe de don, ce germe de fécondité dont nous avons parlé, eh bien, avec la grâce du mariage, parce que plutôt que de parler de sacrement, ça fait un petit peu froid, moi je préfère finir avec vous sur cette idée de cette grâce de l'esprit qui est donnée à ceux qui échangent leur consentement et se donnent l'un à l'autre dans le mariage. Eh bien, ce texte de Cana nous annonce que par l'intercession de Marie, eh bien, le Christ transforme, transfigure ce qui fait la joie d'un mariage, c'est-à-dire l'amour, hein, qui ici est représenté d'une certaine façon par le vin, le bon vin. Il n'y a plus de vin, il n'y a plus d'amour dans ce couple, si toujours par la grâce du sacrement, par la grandeur du sacrement, tout amour peut toujours ressurgir, renaître par la grâce du baptême et par la grâce du sacrement de mariage. Et je suis heureuse de finir cette année avec vous sur cette conviction que je veux partager avec vous, que je vous confie, cette conviction de ce que le sacrement de mariage, la grâce du sacrement du mariage, le don de l'esprit qui est opéré à travers le consentement des époux, eh bien ce n'est pas un simple accord, c'est une transfiguration totale de la relation entre l'homme et la femme pour la conformer, comme nous le dira saint Paul, c'est-à-dire pour la rendre aussi belle, aussi grande, aussi pure et aussi sainte que la relation entre le Christ et son Église, relation basée sur l'amour, le don et la fécondité. Merci, à très bientôt.